Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Salut à tous, bienvenue dans Vacarment Réunion, il est 16h comme toutes les semaines et on est deux aujourd'hui, je suis avec Pif Paf Pouf puisque tel est son nom aujourd'hui. Salut Pif Paf Pouf.
Salut Elisa, si j'ai bien compris.
Ouais, c'est mon nom aujourd'hui. Je l'ai lu dans un roman hier, j'ai trouvé ça très joli. Ça m'a plu. Voilà, alors aujourd'hui on va parler du Mexique et du narcotrafic au Mexique ainsi que de la lutte zapatiste. On va en parler parce qu'il y a une dizaine de jours maintenant, il y a un journaliste mexicain, Javier Valdez Caldeñas, ouais c'est ça, qui s'est fait assassiner, et du coup c'était un journaliste qui enquêtait sur le narcotrafic. C'est le sixième journaliste, je crois, à se faire assassiner cette année, depuis janvier, et puis c'est le, 126e, depuis qu'a commencé la guerre contre le narco, qu'un certain nombre de journalistes ont déclaré, et donc qui se sont mis à faire des investigations contre le narcotrafic au Mexique. On vous a parlé de ça très brièvement la semaine dernière, et cette semaine on devait accueillir une amie à nous mexicaine qui était super calée sur la question, mais la lutte contre les journalistes qui enquêtent sur le narcotrafic va jusqu'à nous, puisqu'elle a perdu sa voix avant-hier soir, et qu'elle n'a plus du tout de voix, et qu'elle pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Du coup, Pif Paf Pouf et moi, on n'est pas spécialiste de la question, mais on a travaillé avec elle.
On a bien briefé le truc, ouais.
Voilà, et on va essayer de vous raconter un peu ce qui se passe là-bas. On va commencer par une explication un peu générale.
Un peu générale, en fait, effectivement, de ce qu'on entend, enfin, qu'est-ce que c'est, en fin de compte, le narcotrafic au Mexique. Alors, ça, bien sûr... Un narcotrafic n'est pas propre au Mexique, on le sait bien. Hein, genre, à partir du moment, c'est la pègre, c'est ni plus ni moins ce genre de choses, c'est les mafias. Donc, voilà ce qu'on va appeler en gros les narcotrafics. Mais le narcotrafic, c'est une mafia en fait qui est directement associée à la culture de la drogue. Et alors, là où c'est très intéressant et terrifiant au Mexique, c'est que depuis une dizaine d'années, mais c'est pas comme si ça n'avait jamais existé au Mexique. La dimension du narcotrafic a pris des proportions telles que c'en est juste glaçant. Alors en quoi ça consiste, on va dire, là depuis on a tout un imaginaire en fait qui est associé simplement de notre point de vue de petit occidental qui va regarder des docu ou alors qui va aller au cinéma, qui va se régaler de voir l'ultra-violence qu'on peut voir dans tous ces films et qui sont toujours en train de nous montrer des rapports de force incroyablement violent, et ça relate bien en fait une réalité là-bas. C'est que vous savez que le Mexique c'est un État fédéral et c'est un État fédéral qui est en totale déliquescence politiquement. C'est-à-dire que tout le territoire est un enjeu de lutte, bien entendu. Il y a le capital, il y a la proximité des États-Unis qui, vous le pensez bien, pose un sacré problème parce qu'en fin de compte, il s'avère que cette économie en fait des narcotrafiquants, du narcotrafic, c'est-à-dire que la grande majorité de la drogue qui est produite au Mexique ou qui transite au Mexique, parce que c'est pas relatif qu'à la production, mais en fait au commerce. Hein. Donc il y a aussi des choses qui viennent de bien plus en bas, en fait, qui viennent d'Amérique du Sud, excusez-moi. Une grande partie, une très 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 grande partie, en fait, est destinée à aller aux États-Unis, à la consommation, en fait, des toxicomanes américains. D'où, en fait, et comme vous le savez, c'est un pays très riche, enfin du moins, qui a énormément de moyens quant à sa capacité, justement, à pouvoir éponger cette drogue, etc. C'est quoi le narcotrafic ? C'est ni plus ni moins des bandes armées qui sont en totale liberté, on va dire, qui vont mettre à pas les agriculteurs, les habitants locaux. Alors bien sûr, pour pouvoir produire tant de la cocaïne, de l'héroïne. Alors l'héroïne, c'est le pavot, hein, ce genre de choses. En fait, il y a des polycultures un peu partout, en fait, dans des régions qui sont assez dures, en fait, et éloignées, en fait, des grands centres métropolitains. Donc, c'est vraiment dans des arrières-forêts, des choses comme ça que ça se passe. Et c'est ni plus ni moins des agriculteurs, en fait, qui se voient complètement spoliés de manière systématique et par la force des armes. Ça veut dire qu'ils sont mis sous le joug, en fait, de ces narcotrafiquants. Donc, c'est des petites armées, c'est des milices, c'est aussi des locaux, en fait, qui vont se mettre, en fait, au service de ces narcotrafiquants. Donc, si vous voulez, il y avait une porosité sociale énorme là-dedans. Les gens sont, bien sûr, en fait, pauvres en général. Donc, il y a aussi se demander comment rentre-t-on dans ces cartels-là. D'une manière, c'est des soldats, quoi. C'est une espèce de sous-prolétariat, en fait, des grandes mafias narcotrafiquantes. Et donc, ça s'assoit comme ça. Et donc, les paysans, en fait, il y a énormément de communautés paysannes qui sont obligées de travailler. C'est soit ça, c'est soit la vie, soit la mort. C'est la condition, en fait, de ta survie, c'est de travailler pour nous, sinon rien, soit tu disparais bel et bien. Donc, voilà comment ça se pose. Alors, ça a toujours existé. Ce que me disait cet ami, justement, qui nous a proposé de faire cette émission-là, c'était que, justement... depuis 2006, c'est-à-dire depuis l'arrivée au pouvoir en fait de Calderón, en fait le président qui est maintenant au pouvoir depuis 11 ans, s'est lancé en fait toute une idée. Il a eu une promesse en fait de lancer une guerre contre en fin de compte les narcotrafiquants. Mais il faut voir ça vraiment comme de la novlangue, c'est-à-dire qu'il faut comprendre absolument le contraire de ce qu'il prétend vouloir faire. C'est-à-dire que pour combattre le narcotrafic, en fin de compte, il s'est allié avec lui. C'est d'une certaine manière comme ça, enfin, genre, là, je l'ai dit de manière grossière, mais en l'espace de 11 années, le narcotrafic qui était plutôt régionalisé, qui était plutôt territorialisé, donc sur le Mexique et ses marges, mais en fait, il s'est vu prendre une proportion démentielle, genre à une dimension mondialisée. Genre, le système narcotrafiquant a été dopé, si vous voulez, en l'espace de ces 10 dernières années. Avec les conséquences, bien entendu, d'exploitation et humaine que ça. Rien qu'à titre d'exemple, enfin, on en parlait tout à l'heure avec Elisa. En l'espace depuis 2006, depuis l'arrivée au pouvoir de Calderón, en fait, il y a plus de 120 000 personnes, enfin, mexicains, qui sont tombées mortes d'une raison ou d'une autre, en fait, par le biais, en fait, je sais pas, différents cercles, si vous voulez, de rapprochement à cause du narcotrafic, ce qui est complètement.
Ouais, je crois que ça place le Mexique en deuxième position après la Syrie des homicides volontaires et en plus pas du tout, enfin impunis quoi.
Ah bah voilà, complètement impuni. Donc en même temps, tu dis en fait l'État que fait-il, en fait les forces de l'ordre, la dimension de la répression. Alors en fait la répression elle est plus là en fait pour tenir les mouvements sociaux en fait dans leur coin, genre pour les éteindre, pour les baïonner, et de manière, c'est des balles, enfin, les gens sont abattus. Alors bien sûr, le lit de tout ça en même temps, il y a quand même on l'abordera en fait à la fin de l'émission, il y a bien sûr une résistance, les gens ne se laissent pas faire, bien entendu, alors qui, particulièrement en fait les communautés indigènes, mais on y reviendra comme je le disais, ça pose vraiment en fait de gros problèmes, en fait d'insécurité quoi. On a des gens qui peuvent, comme disait cette même amie, il y a aussi tout un régime de paranoïa qui se met en place, en fait, d'intimidation. En fait, c'est un régime de terreur. Ce n'est plus ni moins un régime de terreur qui traverse en fait toute la société mexicaine et particulièrement en fait les grandes métropoles. Et donc voilà, en fait, c'est assez terrifiant quand on en entend parler, quand elle en parle, et puis si vous lisez des articles sur le sujet, c'est complètement délirant. Il y a des zones où les habitants des villages ont disparu. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils ont ni plus ni moins disparu. C'est un peu comme l'histoire, là, il y a quelques années, de ces étudiants qui étaient des opposants politiques, qui protestaient. Là, je n'ai pas l'esprit clair sur cette question-là, mais toujours est-il qu'il y a une quarantaine d'étudiants qui ont bel et bien disparu. Il y en a trois qui se sont fait massacrer, clairement, les autres ont disparu. Mais s'ils ont disparu, on sait très bien en fait, qu'ils sont morts. Alors, je ne veux pas rentrer en fait, dans des choses qui sont vraiment terrifiantes, mais... ce que cette amie me disait, c'est que y a un procédé classique maintenant qui est communément pratiqué par les narcotrafiquants et associés, mais on y reviendra. C'est de diluer les corps dans des bains d'acide. Voilà, genre vous utilisez l'acide
pour pas les reconnaître.
Pour pas les reconnaître. Voilà, c'est ça. En fait, ils sont désagrégés. Il y a plus le moyen de remonter à quoi que ce soit. Quoi. Genre, ils disparaissent dans la nature. Ils sont pulvérisés chimiquement. Voilà.
Ça me... Ça me fait rire, j'allais dire ça me fait rire, mais c'est pas cette anecdote-là qui me fait rire. Un jour, je me suis fait contrôler par la police et j'avais pas mes papiers d'identité. Et c'était juste après le moment où ces 40 étudiants ont disparu. Et les flics m'avaient dit, eh ben voilà, vous voyez, vous auriez, enfin, il faut avoir ces papiers sur vous. Imaginez si vous mourrez, on a besoin de savoir qui vous êtes, etc. Et ils avaient pris cet exemple des étudiants qui avaient disparu, ah oui, etc. Et qu'on sait pas, en fait, on retrouve des corps, on sait pas si c'est eux ou pas, quoi. Mais je suis pas sûre que les papiers résistent au bain d'acide.
Oui. Oui, ce qui est assez grotesque, effectivement. Donc, on pourrait... alors là, je vous donne un aperçu assez... pas très non plus exhaustif, parce qu'au vu de ce qu'il y a. Mais alors, il y a pour la petite histoire aussi, ce qui explique que genre, le Mexique est devenu vraiment une place forte, on va dire, dans le narcotrafic. C'est relatif aussi aux politiques en fait, des États-Unis pour essayer d'endiguer l'arrivée des drogues en fait, d'Amérique latine, qui ne passaient pas majoritairement en fait par la voie terrestre, c'est-à-dire par le Mexique, hein, qui est une sorte de corridor, hein, qui ni plus ni moins rejoint l'Amérique du Nord de l'Amérique du Sud. Ça passait plus par le Panama, d'autres choses, et donc par des voies fluviales, en fait, par des voies de bateaux. Donc il a mis tout en place, tout un système en fait, pour interdire l'arrivée en fait, des drogues par la mer. Et en fin de compte, donc, les narcotrafiquants se sont vus obligés, entre guillemets, en fait, de passer par la voie terrestre. Donc ça a ouvert tout un corridor, et ça, en fait, ça porte un nom en fait, qui est assez affreux. Si je ne me trompe pas, c'est la route de la mort, en fait. C'est le marché de la mort, ce qu'ils appellent la route de la migration. Donc, parce que à travers la drogue, il faut entendre, bien entendu, marché d'humains, et particulièrement de femmes, en fait. Donc il y a du proxénétisme, hein, tout ça, ça s'associe à le marché des armes. Et il y a donc tout un marché de contrebande. Donc c'est tout un ensemble, en fait, par lequel est traversé le Mexique. Si vous voulez. Voilà, genre la dimension économique, c'est un espèce de truc complètement démentiel. C'est pour faire l'amorce. Et donc il y a toutes ces dimensions-là. Alors bien entendu, tout ça, cela est permis et commence à exploser. Bah, comme je vous le disais, en fait... au début, c'est avec l'arrivée de Calderón qui prétend en fait lutter contre le narcotrafic, alors que c'est bien le contraire qui se passe. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une coalition, hein, et c'est clairement avéré, et c'est justement là, c'est tous ces fameux journalistes qui ont été abattus là, par dizaines, par centaines, donc, qui travaillaient sur ces questions-là, pour essayer simplement en fait, d'expliciter et de visibiliser en fait, ce qui était en train de se passer, bah, ils ont rendu compte en fait, de cette coalition, en fait, de cette ambiguïté, en fait, de cette coalition en fait, entre l'État et le narcotrafic. Alors, il y a un auteur dont on va vous passer là, en fait, des extraits. C'était des camarades de Radio Zinzine qui ont effectué une interview de ce journaliste qui s'appelle John Gibler, qui a écrit un livre qui s'appelle « Mourir au Mexique, narcotrafic et terreur d'État ». Et il a créé un concept qui s'appelle celui de narco-État, en fait. Est-ce que, justement, le Mexique ne serait pas, en fait... définitivement un narco-État, c'est-à-dire en fait une entité étatique qui travaille, qui serre la main en fait au narcotrafic, qui est une même dynamique. Et que, à l'entendre, c'est bel et bien ça, quoi.
Bah oui, on peut écouter ça. On va écouter un peu de musique avant, et puis ensuite on va vous passer cette émission de Radio Zinzine. Mmh. Et c'est sûr que cet exemple, il permet de mettre vraiment en lumière les... je ne sais pas comment on pourrait dire, mais une des natures de l'État, des États en général. Parce qu'effectivement, on voit l'hypocrisie générale à lutter contre des trucs à la con, comme la lutte contre le cannabis en France ou je ne sais pas quoi. Et on voit aussi comment les États ils sont complètement corrompus dans des endroits où il y a, je sais pas, un contrôle des populations plus sévère et qui permet plus d'alliances aussi avec... je sais pas, avec le capital, quoi.
Avec le capital. Et pour résumer la chose un peu, bah, c'est effectivement ça, en fait. C'est la dimension, c'est ce qu'on a souvent dit, c'est que tout ce qui est justement narcotrafiquant, donc comment on appelle ça, les Italiens,
je sais pas, à la mafia.
La mafia, c'est ni plus ni moins, en fait, le capitalisme, en fait, décomplexé. C'est-à-dire que c'est la violence absolument totale qui va poser ses conditions. Il n'y a plus d'appareillage légal. Il n'y a plus de juridiction, il n'y a rien. Mmh. C'est juste la violence brute qui s'exprime à travers en fait, les besoins d'un marché qui est celui de la drogue, qui est une véritable prédation. C'est vraiment le masque, en fait, c'est bas les masques, en fait, c'est bien ça. En fait, la dynamique du capital, elle est là pour schématiser à mort, mais c'est ça, quoi.
Eh ben on va écouter, alors je ne sais pas comment on dit, parce que je ne parle vraiment pas espagnol, mais c'est VND por Gran OM. Et puis ensuite, on écoutera John Gibler pour Radio Zinzine. Voilà. For those who protested, for
por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. Expressing their will for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep being blind. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar. La esperanza nos alumbra para poder avanzar. Those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep me in line.
Radio Zanzine présente Chronique orale des attaques contre Ayotzinapa, une rencontre avec John Gibler.
Solito caía la trampa ese desdichado día.
Ben, on va passer directement à mourir au Mexique, narcotrafic et terreur d'État. Donc ce bouquin qui est fait de... On voit dans le livre que tu es allé dans plein d'endroits, rencontrer des gens, des gens qui vivent au quotidien avec le narcotrafic, mais tu pointes très clairement le lien avec l'État, chose que dans les grands médias, est peu fait. Comment tu faisais pour aller, pour choisir les endroits, pour aller dans les endroits, pour amener les gens à parler, parce qu'il y a aussi une peur pour parler. Comment tu as fait ta démarche pour sortir ce livre?
Pues empecé con la misma como ética, la misma manera de trabajar que tenía en la otra campaña, ¿no? Que era ir hasta abajo, con los pueblos de abajo, con la gente de abajo, y hablar con ellos y escucharlos a ellos. Y yo empecé en el año 2007, en los primeros meses de esta supuesta guerra contra el narcotráfico, yendo a los pueblos del estado de Michoacán, donde el ejército realizó sus primeros operativos, y yo fui a hablar con la gente en esos pueblos, sabía qué había pasado. Y sus historias, lo que ellos contaban, ya mostraba la verdad, ¿no? De que esa guerra no iba en contra de unas sustancias ilícitas, pero iba en contra de la gente.
J'ai commencé avec la même manière dont j'avais commencé donc pour l'autre campagne. Je suis directement allée vers les gens qui s'organisent depuis la base, desde abajo, pour parler avec eux, les écouter. Donc j'ai commencé en 2007 dans le cadre de ces premiers mois de la supposée guerre contre la drogue, et je me suis d'abord rendue au Michoacán où se sont déployées les premières opérations policières et militaires. J'ai demandé aux gens ce qui s'était passé et leur histoire montrait bien la vérité qu'il y avait derrière cette supposée guerre contre la drogue, à savoir qu'il ne s'agissait pas ici de combattre le commerce de la drogue, les substances illicites, mais bel et bien de déployer une guerre contre les peuples.
Parce qu'il faut rappeler que donc en 2006, c'est Felipe Calderón qui prend le pouvoir du Parti d'Action Nationale, donc du parti d'extrême droite, au pouvoir, et qui déclare la guerre contre la drogue avec une militarisation totale du Mexique, une plus grande militarisation, si c'était possible, du Mexique. Et ça a été un changement, et ça, donc, c'est autour de l'année 2006 qu'il a pris le pouvoir recontextualiser un peu. Toi, dans ton livre, tu parles de narco-État. Qu'est-ce que ça signifie, le narco-État? Comment on peut le définir? Parce que, encore une fois, on a la vision dans les médias qu'il y a les méchants criminels illégaux que sont les narcotrafiquants et le gentil État démocratique qui devrait nous protéger contre les méchants. Alors que toi, tu pointes une collusion beaucoup plus grande entre les deux.
Sí, el Estado mexicano siempre ha participado de manera muy activa en la administración total de la industria del narcotráfico, desde siempre. Pero antes, hace décadas, era una cuestión todavía muy regional, en cierta escala pequeña. Pasan varias cosas a nivel internacional que cambia esa escala y convierte en México en un lugar geopolítico único en la industria global de las drogas, para empezar.
En effet, donc, l'État mexicain a toujours participé de façon très active et totale dans l'administration du narcotrafic. Par contre, avant, c'était sur des échelles plutôt régionales, locales, et il s'est passé un ensemble de choses au niveau international qui ont fait que l'échelle a changé et le Mexique est devenu un acteur, on va dire, beaucoup plus fort, beaucoup plus grand par rapport donc à l'industrie du narcotrafic qui devient une entreprise transnationale.
Primero, aunque tiene una historia colonial muy larga, es Estados Unidos que por primera vez usa el lenguaje de una guerra contra las drogas en una campaña para enmascarar su programa de opresión de su propia población, sobre todo las poblaciones no blancas, afroamericanos, pero también mexicanos, chicanos, personas de diferentes países de Asia. Desde su inicio, la prohibición y la maniática criminalización del consumo de drogas en Estados Unidos se ejerce como una política represiva de Estado.
Donc il y a toute une histoire coloniale très très longue, mais en gros les États-Unis sont le premier pays à utiliser tout ce langage, cette rhétorique des guerres contre les drogues. Ils lancent au début du XXe siècle une campagne pour couvrir, pour masquer, pour cacher un programme d'oppression dirigé vis-à-vis des communautés afro-américaines, asiatiques, des Chicanos. Donc, clairement, dès le départ, les politiques de prohibition ont pour but de réprimer les populations.
Pero intentando resumir mucho, hay dos momentos muy importantes en los años 80-90 en la reconfiguración del lugar que México desarrolla en esa industria internacional de la droga. Lo primero es cuando Reagan decide parar la llegada directa de la cocaína de Colombia a Florida por vías marítimas. Y la segunda es el Tratado de Libre Comercio. Esos dos hechos convierten a México en el principal país de paso para todas las principales drogas ilegales en su camino de zonas de producción a el mercado más grande de consumo del mundo, que es Estados Unidos.
Il y a eu deux moments clés qui se sont situés dans les années 80 et 90, décennies au cours desquelles le rôle du Mexique dans tout ce commerce de la drogue a été reconfiguré. Premièrement, lorsque Reagan décide de stopper l'arrivée de la cocaïne, donc qui partait de Colombie et qui arrivait en Floride par voie maritime. Et deuxièmement, il y a eu le traité de libre-échange nord-américain en 94. Du coup, le Mexique devient le principal pays de transit, hein, de passage des drogues illégales. Et sur ce chemin, traverse énormément de zones de culture de la drogue.
Pour aller dans la place principale, de la première, le premier lieu de consommation des drogues, que sont les États-Unis.
Et en tout ce processus, l'État mexicain réellement contrôle et administre le négocio. Pero desde sus etapas más altas, o sea, en ese momento sí, a nivel ras de suelo, así a nivel de base, son personas no directamente empleadas por el Estado, quienes siembran la droga, quienes la mueven, quienes la crucen por la frontera, pero siempre bajo la mirada y el control del ejército mexicano, de la Policía Federal, el famoso DFS, Dirección Federal de Seguridad, que fue la oficina principal de desaparición forzada y tortura contra insurgentes en los años 60-70, y también el control del narcotráfico.
Oui, l'État mexicain donc contrôle et administre clairement le commerce de la drogue, donc au niveau de ses plus hautes sphères, mais si on parle donc du niveau de base invisible, il s'agit de personnes qui ne sont pas directement employées par l'État et qui sèment, qui cultivent, qui transportent la drogue, qui la font passer par la frontière, et le tout au vu et au su de l'armée mexicaine, de la police et de différents organismes impliqués dans la disparition, dans les disparitions forcées. Avec un contenu contre-insurrectionnel.
Pero en los últimos 10 años, en el contexto de Felipe Calderón y su supuesta guerra contra el narcotráfico que Enrique Peña Nieto del PRI, después del 2012, continúa, dos cosas pasan muy fuertes. Uno es que todas esas relaciones entre el Estado y el narcotráfico se profundizan y se extienden hasta tal grado donde hay realmente una fusión completa entre fuerzas del Estado y microempresarios y empleados del narco, ¿no? Donde ahora sí es la policía que controla a ras de suelo el mercado, el trasiego. Pero la otra cosa que pasa es que en ese contexto de guerra, los mercados relacionados al narcotráfico ilegales, que son mercados de la muerte, el secuestro, la extorsión, el tráfico de migrantes, trata de personas, todos esos mercados explotan, se expanden de una forma tremenda, donde antes existían grupos locales, chiquitos, igual con relaciones en la policía, que controlaban el secuestro. Eso entra, como toda la economía formal, en una estructura más vertical y se casi semi-industrializa, a tal grado donde la ruta, por ejemplo, de centroamericanos en su paso por México, se convierte realmente en un mercado ambulante de la muerte, donde de forma pero masiva, de miles de personas al año, los secuestran, los roban todo su dinero, extorsionan a sus familias, y luego simplemente los matan y los entierran, o disuelven sus cuerpos en ácidos, porque ya es más rentable simplemente deshacerse del cuerpo que correr cualquier riesgo de dejarlo libre.
Dans les 10 dernières années, depuis donc le lancement de la supposée guerre contre la drogue par Felipe Calderón et qui trouve sa continuité dans la politique de Peña Nieto, président depuis 2012, on voit donc apparaître deux choses. Premièrement, la relation entre l'État et le narcotrafic se renforce, s'approfondit et s'étend à plein de niveaux, au point qu'aujourd'hui on observe une fusion complète entre l'État, les institutions et tous ces micro-entrepreneurs de la drogue. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est la police qui, on peut dire, qui contrôle complètement le trafic. Et deuxièmement, depuis donc cette guerre contre la drogue, les marchés, disons, collatéraux, les marchés illégaux, explosent. Donc la vente d'armes, la traite d'êtres humains, etc.
L'extorsion.
L'extorsion, les enlèvements. Tous ces marchés, disons, collatéraux, périphériques, explosent complètement. Hein. Avant, on avait aussi ces situations au niveau de groupes plus petits. Hein. La police était déjà impliquée dans les enlèvements, les extorsions, etc. Mais maintenant, c'est devenu une structure beaucoup plus verticale et qui atteint des niveaux industriels. On peut voir notamment que toute la route de la migration depuis l'Amérique centrale donc jusqu'aux États-Unis est devenue un marché ambulant de la mort, où les migrants sont victimes d'extorsions, d'enlèvements, on les fait disparaître de façon forcée et de façon massive. On dissout également leur corps dans l'acide, hein, vu que c'est devenu presque plus rentable.
Et justement, ce que nous allons parler un peu plus tard, les faits que révélaient les attaques contre les étudiants d'Ayotzinapa, dans la ville d'Iguala, en 2014, 26 al 27 de septiembre, muestran el grado, la profundidad de esa fusión narcoestado, donde son policías municipales de tres municipios, policías estatales, miembros de lo que se llama protección civil del Estado Guerrero, policías federales, jueces del gobierno del Estado, alcalde de Iguala, toda la estructura de la PGR, la Procuraduría General de la República, toda la estructura de gobernación, hasta el presidente de la República, y puedo explicar por qué digo esto, todos participan de manera activa y directa en la desaparición forzada masiva de los 43 estudiantes.
Y los hechos que revelan les événements à Iguala survenus les 26 et 27 septembre 2014 à travers donc la disparition forcée de 43 étudiants d'Ayotzinapa, ces faits-là nous révèlent, nous montrent l'importance de cette fusion entre l'État et le narco, où ce sont les trois niveaux de police, donc police municipale de l'État du Guerrero, la police fédérale, mais également des juges, également le maire d'Iguala et sa femme, puis toute la structure du procureur général de la République de Gobernación.
C'est le ministère de l'Intérieur.
Tous ces acteurs-là ont clairement participé de façon totale, directe et massive à la disparition forcée des étudiants d'Ayotzinapa.
Jusqu'au président de la République.
Oaxaca, tez morena, ascendencia mestiza, creció viendo a su pueblo vivir bajo la injusticia, la educación le sirvió para no cegar su vista.
Voilà, c'était une émission de Radio Zinzine, qu'on vient de leur piller, c'était John Gibler. Auteur donc d'un livre, tu te souviens, qui s'appelle Mourir au Mexique.
Mourir au Mexique, narcotrafic et terreur d'État.
Voilà. Et dans cette troisième partie d'émission, on pourrait dire, on avait envie de vous parler de choses plus optimistes,
oui.
C'est-à-dire des formes de résistance aussi qui nous sont familières, enfin familières, qui nous semblent proches de ce qu'on porte dans Vacarme en Réunion. Et donc on avait envie de parler des formes de résistance indigènes, entre autres zapatistes, mais pas que.
Et qui trouvent probablement actuellement, justement face à la prédation et à la terreur, en fait, justement, d'États narcos, justement, les meilleures réponses. justement pour préserver les vies, déjà simplement, et leur autonomie, bien entendu.
Donc moi, au début, je me demandais c'est quoi en fait le rapport entre le narcotrafic et puis un endroit comme le Chiapas ou la lutte zapatiste. Et en fait, ce que nous répondait très simplement notre amie mexicaine, c'est que c'est un rapport à la vie, quoi, tout simplement, à l'autodétermination, à l'autonomie et à la liberté. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais au fait de ne pas se soumettre à ce narcotrafic à nos yeux, à nous, ça pourrait sembler juste un trafic économique, quelque chose comme ça, mais qui en fait a pris sur la totalité de la vie, c'est-à-dire les terres, l'économie locale, toutes les formes d'autonomie locale qu'on peut imaginer sont prises là-dedans.
Et qui ne sont donc pas en fait dépendants de l'appareillage en fait, et du dispositif de gouvernementalité, d'État, etc. C'est-à-dire qu'il y a une réponse, c'est que dans des circonstances données, un groupe de personnes, bon là les communautés indigènes et particulièrement le Chiapas, parce qu'on le connaît bien, savent répondre collectivement face à ça. Quoi. Genre ils ne sont pas en fait fragilisés. Ou alors s'ils le sont, ils savent aussi tout de suite s'organiser, parce qu'il y a des rapports de confiance, en fait une grande... sur un territoire assez conséquent, etc. Donc oui, c'est quelque chose d'assez fascinant quand même.
Ouais, que du coup, la forme de résistance que eux ils ont, c'est celle de la sécession vis-à-vis de l'État, déjà. Et donc de ne plus se remettre aux mains de l'État et de sa police pour se protéger du narcotrafic, quoi. En tout cas, d'avoir fait tomber d'un même mouvement l'illusion étatique et l'emprise du narco, quoi.
Et l'emprise du narco, alors comment? C'est de manière assez basique, en fin de compte. C'est que c'est aussi, il faut pas l'oublier, c'est que le mouvement Chiapas, quand même, du Chiapas, et donc c'est anciennement, ils héritent en fait de le mouvement d'indépendance révolutionnaire zapatiste, et donc c'est quand même le ZLN, c'est-à-dire l'armée en fait zapatiste de libération nationale. On a entendu un moment avec une figure très représentée qui s'appelle le sous-commandant Marco, mais pas que, hein, en fin de compte, lui c'est vraiment un porte-voix, qui a su aussi poser son condition, c'est-à-dire que ce sont quand même les armes, hein, qui ont permis en fait de garder, en fait de préserver des territoires de toute la prédation capitaliste et bien entendu en fait genre des forces de l'ordre, de la répression policière, de l'armée et qui plus est des narcotrafiquants qui sont ni plus ni moins en fait des bandes armées. Donc il ne faut pas oublier cette dimension militaire quand même qui vient tenir à bonne distance cette prédation là.
Ouais, tout à l'heure quand je te demandais mais alors du coup c'est quoi les formes de résistance zapatiste au narcotrafic, toi tu me répondais les armes quoi.
Ben, tout simplement, assez basiquement.
Moi, je réfléchissais des choses très théoriques, très voilà, qu'est-ce qu'ils opposent à ça, etc. Ben, et puis tu me redisais cette réalité un peu évidente. Qui est que la grande force des luttes indigènes, c'est qu'elles sont. Enfin, la grande force, c'est vraiment nul de dire ça, mais en tout cas, ce qu'on aimerait pouvoir oublier, mais qu'on ne peut pas, c'est que leur libération et leur forme d'autonomie, elles sont préservées et elles ont été conquises grâce aux armes, et que c'est aussi ça qui tient à distance les narcotrafiquants.
Voilà, je me rappelle d'un tableau en fait, qui avait été présenté donc, par Rossello et.
Jérôme Bachet. Qui sont les deux personnes qui sont venues présenter l'exposition Zapatiste aux Lentillères lors de la fête des Lentillères, et on en avait parlé dans une émission que vous pouvez réécouter qui s'appelle Du Chiapas aux Lentillères, où il y avait aussi une présentation plus large de la situation au Chiapas.
Et il y avait un grand tableau qui était au Snack Fridge, donc il y a un petit bâtiment en fait un peu ouvert à tous sur le jardin des Lentillères, et il y avait un tableau où on voyait la vie, la paysannerie, l'école, l'éducation, toutes ces dimensions là. Et en fait, au loin, on voyait une forêt avec, à la lisière de ce tableau-là, en fait, une forêt dans laquelle on voyait partout, vous savez, en fait, les caches montagnes, en fait, les fameuses cagoules, en fait, des zapatistes, et qui tiennent lieu, en fait, de limite du territoire, en fait. Ça, c'était facile à comprendre, en fin de compte, c'était effectivement ça qui se dessinait. Et puis, je voulais revenir là-dessus, parce qu'on en parlait justement avec cette amie mexicaine. Elle me parlait d'un village donc indigène qui ne fait pas partie de la communauté du Chiapas, mais parce qu'en tout, je crois qu'il y a 59 communautés différentes indigènes au Mexique et qui font partie en fait du CNI, du Conseil national en fait indigène. Et elle me dit que il y a une communauté qui arrivait à se libérer justement de la pression des flics et de cette prédation des narcotrafiquants comme ça, en mettant en place. Au début, je comprenais pas comment elle me le disait. Elle me disait des polices en fait communautaires. Je me dis mais c'est quoi des polices communautaires? Elle me parlait des milices, etc. En fait, c'est bel et bien ça. C'est pas. Je me dis mais c'est qui? C'est l'émanation de qui ces flics? Maintenant, en fait, c'était en fait la population qui est obligée de créer une police contre la police.
Contre la police mexicaine.
Voilà, contre la police d'État en fait. Et c'est fou.
qui s'appellent des polices communautaires.
Quoi. Voilà, c'est ça. C'est assez incroyable, en fait, de se dire que c'est la seule condition pour eux pour être tranquille, quoi.
Ouais, je crois que ça, c'est dans l'état du Guerrero ou du Michoacán. Mm. Et entre autres, elle racontait le cas d'un village qui s'appelle Sheran. Alors, je ne sais pas si c'est un état ou un village, une commune, je ne sais pas. Mais où la population de Sheran donc, avait demandé de l'aide à la municipalité et aux autorités étatiques et fédérales pour lutter contre le narcotrafic. Et personne ne les a aidés. Et du coup, c'est la communauté qui a décidé de se faire justice elle-même et qui, en s'armant, a chassé les exploitants de bois, les cartels de drogue et même le gouvernement local qui était complètement corrompu. Et puis à la place, ils ont mis leur propre gouvernement, donc basé sur les traditions locales comme il y a dans le Chiapas, etc. quoi. Et du coup, ben voilà, ils ont une police communautaire, ils patrouillent et ils défendent les limites de la ville, quoi. Et du coup, c'est un village dans lequel aujourd'hui, il y a plus de campagne politique, il y a plus de vote, il y a plus de parti, il y a plus d'élections et il y a plus d'alcool. Puisque voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais dans les territoires indigènes, enfin je ne sais pas si ça concerne tous les territoires indigènes, en tout cas au Chiapas, l'alcool est interdit, comme toutes les autres drogues. Et bon, alors c'est sûr que nous, de notre point de vue, ça, parfois ça peut paraître un peu bizarre, parce qu'on a des formes de fêtes, et bon, je ne sais pas, pour moi par exemple, le vin, c'est associé à une certaine forme de communauté aussi, de festive, etc. Mais effectivement, dans un état complètement pris par la drogue, on peut comprendre un peu mieux aussi ce genre d'exigences politiques, quoi. Mmh. Voilà, qu'est-ce qu'on... On voulait vous parler un peu plus précisément de ce qui se passe en ce moment au Chiapas et au CNI, puisque ce week-end, le CNI, c'est le Conseil National Indigène qui se retrouvait ce week-end.
Ce week-end, ouais, tout à fait. Et qui vont statuer en fait sur ce qu'ils appellent en fait la mise en place en fait. Alors c'est ça, je ne sais plus combien de représentants, il y a à peu près 600...
Il y a 58 peuples 50... qui sont représentés.
Voilà.
Et il y a plus de 800 conseillers, porte-parole, délégués, voilà.
De toutes ces communautés indigènes. Alors bien sûr, c'est aussi avec, en partenariat en fait avec donc, le ZLN. Donc,
en partenariat.
Non, pas partenariat, non, excusez-moi, mais genre ils sont en discussion, quoi. Genre, c'est,
entre le CNI et, et le ZLN.
CNI et le ZLN, et ils sont en train de mettre en fait un... je ne sais plus ce que c'est une... non, c'est pas un comité, mais une...
Tu veux parler de quoi?
Le conseil, justement, national...
Conseil indigène de gouvernement.
Voilà, de gouvernement.
C'est ça qu'ils font ce week-end.
Qu'ils sont en train de faire ce week-end, effectivement. Et c'est assez marrant, parce que c'est soir à 20h, pour heure française, où ils vont vraiment statuer, en fait, contre à ce qu'ils vont pouvoir faire avec ce conseil de gouvernement indigène, et leur ambition, ni plus ni moins, mais en fait, nous, on a, justement... Rossello et Michel.
C'est Rossio.
Rossio, excuse-moi. Ouais. Et Jérôme, j'allais dire Michel. Jérôme Bachet, on avait touché quelques mots, effectivement. Là, il y a une grande tentative, parce que le Chiapas est aussi attaqué, bien entendu, par cette dimension-là. Et c'est un prétexte pour le gouvernement, le fait que les narcotrafiquants, la pègre, viennent avec cette violence-là. C'est aussi une manière, en fait, d'arriver, en fait, sur les territoires qui avaient été, entre guillemets, abandonnés aux apatistes, et de ce fait, après, le gouvernement va trouver, entre guillemets, un prétexte, une justification pour reprendre ces territoires en disant, bah, voyez, en fait, votre système de défense n'est pas suffisant, et en fait, on va venir, et il s'immisce au fur et à mesure. Donc, d'une certaine manière, on a un premier front, c'est la violence, en fait, des trafiquants, et ensuite, il y a la violence, la répression policière qui vient réaccaparer, et qui essaye, voilà, qui attaque clairement, en fait, les apatistes frontalement, et eux, la réponse qu'ils ont trouvée, c'était de se dire, bon, voilà, si on ne fait pas, en fait, quelque chose, un geste politique, dans la dimension politique politicienne, bah, c'est justement via, en fait, ce conseil de gouvernement indigène, bah, c'est de se proposer au présidentiel l'année prochaine.
Ouais, ce qu'expliquait Jérôme Bachet dans l'émission là, qu'on a fait il y a un mois, c'est que c'est complètement nouveau, puisque jusqu'à présent, la position du Conseil national indigène, c'était de ne pas du tout se présenter aux élections. Et même, je crois que c'est les apatistes qui avaient mené à un moment quelque chose qui s'était appelé l'Altra Campaña, l'autre campagne. Mmh. Et au moment d'une campagne présidentielle, ils avaient fait le choix de, eux, proposer comme programme politique eh bien, le mode de vie zapatiste. Et du coup, ils avaient circulé dans tout le Mexique pour faire connaître l'autonomie zapatiste. Et c'était ça, leur campagne présidentielle à eux. C'est-à-dire qu'ils opposaient au jeu électoral un modèle de sécession et d'autonomie locale. Et là, c'est un virage dans la politique du CNI que de présenter une candidate aux élections présidentielles.
Une candidate, donc. Et c'est aussi dire que dans le cadre de cette campagne, donc la Altra Campaña, en fait, justement, quand les représentants zapatistes partaient là-bas, ils ont eu aussi à se faire recevoir de manière très très sévère, puisque certains, justement, ont été tués. Donc c'est qu'ils sont sentis aussi, ils ont mesuré à quel point ils étaient aussi mis en danger, quoi, genre ce modèle de vie, en fait, cette manière, en fait, de vouloir se réapproprier le monde était clairement, en fait, détestée par beaucoup de personnes au point, en fait, de tuer ces gens-là.
Mais donc, cette inflexion politique, alors, moi, je suis vraiment pas capable, je pense toi non plus, d'en expliquer toute la complexité. En tout cas, ce que je comprenais de ce que nous racontait Jérôme Bachet, c'est que c'est aussi une nécessité de changer de pratique politique, d'essayer quelque chose qui a jamais été essayé encore pour créer se mettre dans des situations nouvelles et réussir à faire porter une voix indigène qui outrepasse un peu la portée qu'elle avait eue jusque-là, quoi.
Voilà, et moi je me disais, mais alors ça c'est une interprétation personnelle, mais j'ai quand même envie de vous en faire part.
Bon. Allez,
c'était de dire aussi
le moment de l'interprétation.
Oui, bah, c'était aussi un peu de dire, mais je pense qu'en en discutant avec Jérôme Bachet justement, il en était sorti ça un peu, c'était que parce que justement les habitants du Mexique en fait sont confrontés à une politique en fait auquel il y a rien à attendre, des élections ou pas, ça changera rien à la violence de toute façon en fait qui se libère jour après jour de cette manière-là. Et c'était aussi dire nous en tant que zapatistes, on a des vrais moyens en fait de reprendre, en fait de se défendre de ce monde-là. Et c'était ça aussi, c'est que nous on a des vraies solutions et elles marchent. Et ça, je trouvais ça assez pertinent en fait. Effectivement, c'est genre s'il y a une solution, on est là quand même. Sur tout le territoire, et briguer plus que simplement le territoire du Chiapas.
Oui, tout à fait. Et du coup, ça, c'est la décision qu'ils prennent ce soir, enfin, que le CNI et le ZLN prennent ensemble ce soir. C'est celui de proposer à l'ensemble des territoires indigènes de proposer cette candidature aux élections. Donc, ce que j'ai compris, et ça illustre aussi la manière dont dont ils construisent politiquement leur organisation. Ce que j'ai compris, c'est que ce soir, ils actent cette proposition, qu'ensuite, ils se constituent en assemblée permanente. Et il y a des grandes discussions partout, dans tous les territoires indigènes, sur cette proposition. Donc ça redescend, en gros, aux assemblées locales, communales. Et il y a des retours qui vont être faits au CNI et qui vont permettre de savoir si cette proposition est adoptée par l'ensemble des territoires indigènes ou pas, quoi. Voilà, je pense qu'on peut finir sur la lecture de leur communiqué d'octobre 2016, qui est très beau. Et moi, je suis contente de lire ça. Enfin, c'est peut-être pas les parties les plus poétiques, mais je trouve que les communiqués zapatistes que j'ai lus pour préparer cette émission, ils ont une poésie particulière et même une grammaire particulière qui donne à penser et qui ouvre des horizons aussi dans le langage politique. Alors, je sais pas si ce sera très parlant, mais je vous lis au moins cet extrait et on va finir là-dessus. C'est ainsi que nous nous sommes réunis pour célébrer la vie durant le 5e congrès national indigène qui a eu lieu du 9 au 14 octobre 2016 au Sidechi Unitierra, Chiapas, là où encore une fois nous nous rendons compte de l'aggravation de la spoliation et de la répression qui n'ont pas cessé depuis 524 années quand les puissants ont initié une guerre ayant pour but d'exterminer nous qui sommes de la terre et qui, étant ses enfants, n'avons pas permis sa destruction et sa mort au profit de l'ambition capitaliste qui ne connaît pas de but autre que cette même destruction. La résistance pour continuer à construire la vie, aujourd'hui, se fait parole, apprentissage et accord. Dans nos villages, nous nous construisons chaque jour dans les résistances pour bloquer la tempête et l'offensive capitaliste qui ne cesse pas, mais devient au contraire chaque jour plus agressive et s'est convertie en une menace civilisationnelle, non seulement pour les peuples indigènes et paysans, mais aussi pour les peuples des villes qui doivent eux aussi créer des formes dignes et rebelles pour ne pas être assassinés, spoliés, contaminés, rendus malades, réduits en esclavage, séquestrés ou victimes de disparitions forcées. Depuis nos assemblées communautaires, nous avons décidé, expérimenté et construit nos destins depuis des temps immémoriaux. Et c'est en ça que maintenir nos formes d'organisation et de défense de notre vie collective n'est pas possible autrement que par la rébellion face aux mauvais gouvernements, leurs entreprises et leurs crimes organisés. Au vu de tout ce qui a été dit précédemment, nous nous déclarons en assemblée permanente et nous consulterons chacune de nos géographies, de nos territoires et de nos cheminements au sujet de l'accord pris par ce 5e CNI de nommer un conseil indigène de gouvernement dont la parole sera matérialisée par une femme indigène, déléguée du CNI en tant que candidate indépendante qui se présentera au nom du Congrès national indigène et de l'armée zapatiste de libération nationale durant le processus électoral de l'année 2018 pour la présidence de ce pays. Nous ratifions que notre lutte n'est pas pour le pouvoir. Nous ne le cherchons pas. Mais nous en appellerons au peuple originaire et à la société civile pour nous organiser afin d'arrêter cette destruction et nous renforcer dans nos résistances et rébellions, c'est-à-dire dans la défense de la vie de chaque personne, famille, collectif, communauté ou quartier. À construire la paix et la justice, en retissant nos fils depuis le bas, depuis là où nous sommes ce que nous sommes. C'est le temps de la dignité rebelle, le temps de construire une nouvelle nation pour et par toutes et tous. De renforcer le pouvoir d'en bas et de gauche anticapitaliste, le temps que payent les coupables pour la douleur des peuples de ce Mexique multicolore.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza que me mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
De Vacarme en Réunion.
Voilà, on vous dit à la semaine prochaine à 16h le dimanche sur les ondes de Radio Campus 92.2 sur Dijon. Et vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les dernières. Ça fait maintenant la quatrième année, je crois, qu'on enregistre comme ça tous les dimanches des émissions de lutte et de résistance. Donc vous nous retrouvez à 16h. Et sinon, voilà, toutes nos émissions sont en ligne sur un blog qui s'appelle tvnr.noblogs.org. N'hésitez pas à nous contacter, nous faire des retours sur tout ça. Bonne semaine, bonne résistance, et puis à bientôt.
À bientôt.
الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكل السيد بتحرر مستوطن بتلمت لكل مصاب بحكيات ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Zap, 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 zap.